Alors, ce matin, on va aborder un sujet qui est parfois très présent, très prêché dans certaines églises et pas assez dans d'autres. J'ai entendu cette semaine quelqu'un qui disait: Méfiez-vous si vous allez dans une église où on ne parle que de ça. Mais je ne crois pas que c'est notre cas. Ce sujet, c'est le sujet de l'offrande. L'offrande. Et on va lire ce matin un premier texte qui se trouve très tôt dans la Bible, dans la Genèse. C'est dans le chapitre 4, versets 3 à 5. Nous sommes ici vraiment au début de la création, après le péché, avec les enfants du premier couple que Dieu a créé, Caïn et Abel. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Alors, en lisant ce passage qui se trouve dans la Genèse, on se rend compte qu'il ne faut pas parcourir longtemps la Bible pour que le sujet de l'offrande puisse être présent dans l'Écriture. Nous sommes, comme je l'ai dit ici, avec Caïn et Abel, dans la première forme de culte qui est rendue à Dieu. C'est la première fois que des hommes apportent quelque chose à Dieu pour lui rendre grâce, pour lui exprimer leur adoration. Et on voit que la première chose que ces hommes font, eh bien, c'est d'apporter une offrande. Cette première forme de culte, elle apparaît après la chute, comme je l'ai dit, parce que avant la chute, on pourrait dire que la reconnaissance, la louange à Dieu était naturelle et spontanée. Il n'y avait pas besoin d'un moment de culte. Toute la vie d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden était marquée par la reconnaissance et l'adoration, à cause de cette présence de Dieu qui était là. Le péché a changé les choses. Ce qui était naturel, spontané à l'égard de Dieu a disparu. Et au lieu d'adoration, eh bien, on voit dans le cœur de l'homme se lever de l'aigreur, du mécontentement, de l'ingratitude. Mais nos premiers parents savaient que Dieu existait, et même leurs enfants. Il n'y avait pas besoin de les convaincre de cela. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils pouvaient obtenir, ils le devaient à Dieu. Et même, marqués par le péché, il y avait ce sentiment de redevabilité envers Dieu. Caïn et Abel savaient, malgré que le péché s'était introduit dans leur vie, que tout ce qu'ils devaient, tout ce qu'ils avaient, ils le devaient à Dieu. Et donc, ils avaient conscience qu'ils devaient quelque chose à Dieu. Jésus a dit, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à l'homme ce qui est à l'homme. Et dans le cœur des premières générations, la conscience de Dieu faisait que on rendait à Dieu ce qui lui était dû. Et comment le faisait-on? Eh bien, on le faisait par un culte et par une offrande. Alors, on ne va pas discuter tout de suite de la valeur de l'offrande de Caïn et d'Abel. Si Dieu refuse l'offrande de Caïn, ce n'est pas le principe de l'offrande qui est en jeu ici, qui est en question, mais c'est les motivations. On le verra plus tard. Les motivations de Caïn au moment où il a apporté cette offrande à Dieu. Mais Dieu a agréé le principe de l'offrande. Il a accepté l'offrande d'Abel, par exemple, même s'il a refusé celle de Caïn. Alors, une première leçon qu'on peut retirer de ce passage, c'est que l'offrande à Dieu est une composante du culte. Un culte, il est là pour que nous puissions offrir quelque chose à Dieu. Nous ne sommes pas simplement là comme des êtres passifs qui recevons de Dieu tout ce qu'il nous a donné, mais le culte, c'est une façon de manifester notre gratitude envers ce que Dieu nous a donné. C'est le but du culte, la reconnaissance, la gratitude envers Dieu. D'ailleurs, une des expressions du culte, on le connaît, c'est de rendre grâce. Ben, qu'est-ce que c'est rendre grâce? C'est simplement rendre à Dieu quelque chose de la grâce qu'on a reçue. C'est ça. Nous apportons à Dieu quelque chose qu'il nous a donné, parce que tout vient de lui. Le culte, ce n'est pas quelque chose de statique ou de passif, mais c'est une relation interactive avec Dieu. Dans le culte, nous nous souvenons de tout ce que nous devons à Dieu, nous nous rappelons de ses promesses, nous le bénissons pour toutes les grâces, les bénédictions dont nous sommes l'objet, et en retour, on lui apporte quelque chose. Alors, ce n'est pas toujours matériel, hein, ça peut être la louange, l'adoration, mais on vient avec les mains pleines de quelque chose pour lui dire merci. Dans Deutéronome 16, verset 16, à propos des fêtes que le peuple d'Israël célébrait tout au long de l'année, il y a un verset qui dit « On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides ». Dans les fêtes, chacun apportait quelque chose pour remercier Dieu. C'était les fêtes des moissons, les fêtes des prémices. Toutes les fêtes de l'année, elles étaient là pour nous rappeler, pour se rappeler tout ce qu'on devait à Dieu, tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu avait donné. Et on venait pour rendre grâce, apporter quelque chose. Et il n'était pas convenable de paraître devant l'Éternel les mains vides. Alors ce dimanche, on va étudier ce sujet de l'offrande. On va surtout voir l'offrande dans l'Ancien Testament. Dimanche prochain, on verra dans le Nouveau Testament. Je veux d'abord souligner que ce n'est pas un thème anodin dans la Bible. Alors, je me suis amusé à compter combien de fois le mot « offrande » apparaît dans la Bible. C'est 237 fois. Ce n'est pas un thème mineur, mais c'est vraiment quelque chose de récurrent. Dans l'Ancien Testament, l'offrande faisait partie du culte. Rien que le mot « offrande », au singulier, au pluriel, c'est 237 fois. Mais il y a en plus de ça tous les passages où il est parlé du verbe « offrir », où le peuple offrait quelque chose. Et ça, c'est beaucoup plus encore. Alors, on va d'abord s'intéresser à un livre qui est le livre qui est tout entier consacré au culte. C'est un des livres qu'on n'aime pas trop lire dans l'Ancien Testament. Vous voyez lequel ? Pardon ? Lévitique. Ben, Lévitique, c'est le livre central du Pentateuque, des cinq premiers livres de la Bible. En fait, tout est tourné vers tout a pour but le Lévitique, le culte rendu à Dieu. Et le livre du Lévitique commence, il s'ouvre par la présentation de cinq types de sacrifices qui peuvent être offerts à Dieu. C'est intéressant. Cinq types de sacrifices. Sur ces cinq types de sacrifices, il y en a quatre qui sont des sacrifices sanglants, où le sang est versé. C'est l'holocauste, les sacrifices de communion, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité. C'est les quatre sacrifices sanglants. Chacun de ces sacrifices nous parle d'un aspect de la croix. Il faudrait étudier ça, et ce serait peut-être intéressant une fois de l'étudier. Mais il y a un sacrifice qui n'est pas sanglant. Et ce sacrifice, qui est inclus dans la catégorie des sacrifices, c'est l'offrande. L'offrande. Alors je vais lire Lévitique 2, versets 1 à 3, qui nous parle du sacrifice de l'offrande. Lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus, il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au prêtre, aux descendants d'Aaron. Le prêtre prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Donc j'aimerais qu'on puisse tirer plusieurs leçons sur l'offrande et l'offrande qui est agréable à Dieu à partir de ce passage. D'abord, comme je l'ai dit, l'offrande, c'est un sacrifice. C'est quelque chose qui coûte. L'offrande n'est pas mise à part des autres sacrifices. Elle est inclue dedans. Et pour qu'une offrande ait de la valeur pour Dieu, eh bien, elle doit coûter quelque chose à celui qui la porte. Jésus a souligné cette réalité, vous vous souvenez sans doute, dans Luc 21, versets 1 à 4, où il se tient devant le tronc, vous vous rappelez, il est dans le temple, il regarde les offrandes qui sont apportées, et il pèse la valeur de l'offrande à ce qu'elle coûte à celui qui l'a donnée. C'est intéressant. Il estime que les riches qui ont donné plus que la pauvre veuve qui a apporté un petit peu, eh bien, ils ont donné moins, en fait, parce que ça ne leur a pas coûté. Il leur dit que c'est leur superflu, tandis qu'elle, c'est son nécessaire. Donc, une offrande, pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu, eh bien, elle doit nous coûter. C'est quelque chose qui doit nous coûter. On veut aussi se rappeler que bien sûr, l'offrande que Dieu a faite pour nous a coûté beaucoup. C'est aussi pour ça que notre générosité, notre gratitude, elle doit nous coûter, parce que c'est une réponse au prix que l'offrande que Dieu a faite à travers Jésus a coûté à Dieu. On retrouve cette idée d'une offrande qui coûte dans 1 Chronique 21-24, c'est un autre épisode. Vous vous souvenez peut-être, c'est au moment où David a fait le dénombrement du peuple, alors que Dieu ne souhaitait pas qu'il le fasse. David a compris qu'il a péché. Alors il se rend chez un membre du peuple, chez Ornan, pour offrir, construire sur la propriété de cet homme un autel et apporter une offrande à Dieu. Et Ornan lui propose de lui donner gratuitement son terrain, et même l'offrande, s'il le veut. Et David lui répond, « Non, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » Alors David, sans doute, ici, c'était pas une offrande dans le sens du Lévitique. C'était un holocauste pour son péché, mais il avait conscience que s'il voulait apporter quelque chose à Dieu, ça devait lui coûter. Ce n'était pas normal que ce soit d'autres qui payent pour lui. Alors le premier point donc qu'on peut souligner par rapport à cet enseignement de la parole de Dieu sur l'offrande, c'est que l'offrande est classée dans la catégorie des sacrifices, quelque chose qui coûte. Deuxièmement, dans le texte qu'on a lu, il est dit « Lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à Dieu. » Une offrande, c'est un cadeau qu'on apporte à Dieu. C'est un cadeau parce qu'on est reconnaissant et qu'on aime Dieu, parce qu'on veut faire plaisir à Dieu, en quelque sorte. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre que dans le culte, Dieu s'attend à recevoir quelque chose de nous. Nous ne sommes pas simplement là pour recevoir quelque chose de lui, mais Dieu veut recevoir aussi. L'offrande doit être offerte dans un esprit de gratitude. Et je reviens ici à l'offrande de Caïn et d'Abel. Si elle n'a pas été acceptée par Dieu, l'offrande de Caïn, c'est qu'elle n'était pas apportée dans cet état d'esprit-là. Hébreux 11, verset 4 nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. » Et dans 1 Jean 3, 12, il est dit « Ne ressemblant pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. » C'est intéressant que Caïn était du malin et pourtant il voulait apporter une offrande à Dieu. Et je crois qu'il y a beaucoup de Caïn dans le monde qui veulent se racheter une conduite en apportant à Dieu une offrande. Ce n'est pas dans ce but que l'offrande doit être offerte. Aucune de nos offrandes ne nous rachètera et ne nous rendra plus agréable à Dieu. Nous sommes reçus par grâce devant Dieu. Mais nous pouvons apporter une offrande par gratitude, comme un cadeau qu'on apporte au Seigneur. Si l'offrande n'est pas faite dans cet état d'esprit, eh bien, elle est plutôt contre nous, elle plaide contre nous. C'est comme si nous voulions acheter l'amour de Dieu. Hein? Alors hier, c'était l'anniversaire de Lydia, elle a reçu des cadeaux. C'était pas pour gagner sa faveur, hein? C'était par amour que les enfants, les petits-enfants. Et c'est pareil avec Dieu. On ne peut pas acheter la faveur de Dieu par nos offrandes. Une troisième chose qu'on retire du Lévitique, c'est que l'offrande est sainte. Dans le texte du Lévitique, vous avez remarqué qu'on ne pouvait pas offrir n'importe quoi. L'offrande devait être faite de fleurs de farine sans levain. On y versait dessus de l'huile et on y ajoutait de l'encens. Tout ça, c'est des symboles. La fleur de farine sans levain évoque une offrande dans laquelle le péché est absent. 1 Corinthiens 5, 8, on retrouve cette idée où l'apôtre Paul dit, par rapport à la Pâque, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Les offrandes qu'on apporte à Dieu ne doivent pas être marquées par le péché. Hein, on ne fait pas ça, comme je l'ai dit, pour se racheter, pour... Voilà. Mais c'est avec un cœur qui aime Dieu, un cadeau, dans l'esprit d'un cadeau, qu'on apporte cela à Dieu. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, et l'encens, c'est le symbole de la prière. Alors, une offrande qui plaît à Dieu, c'est une offrande sainte, qui n'est pas marquée par le péché. C'est un cadeau offert par amour pour lui, dans un esprit de prière et d'adoration. Une quatrième chose qu'on remarque, c'est que l'offrande, telle que Moïse l'a prescrite dans le Lévitique, elle est partagée avec les prêtres. Ça, c'est intéressant. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses descendants. Lévitique 2, verset 3. Donc l'offrande, il y a une double portée en fait. Elle est offerte à Dieu, mais elle permet aussi à l'œuvre de Dieu de se faire. Les descendants d'Aaron, les Lévites, ne vivaient que grâce aux offrandes qui étaient apportées par le peuple. Le sanctuaire, tout ce qui était nécessaire à la vie du culte, était le résultat des offrandes. Aussi, était viable à cause et grâce aux offrandes qui étaient apportées. Je crois que c'est important qu'on réalise que l'œuvre de Dieu se fait dans le monde au travers des offrandes du peuple de Dieu. Ici, on a besoin de locaux, on a besoin de serviteurs de Dieu, un jour. Eh bien, il faut bien penser que cela passe aussi par l'offrande du peuple de Dieu. L'œuvre de Dieu est le résultat de la gratitude aussi du peuple de Dieu, de sa reconnaissance. On a de multiples exemples bibliques qui le démontrent. On va prendre Exode 25. Exode 25, c'est au moment de la construction du tabernacle. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » L'œuvre de Dieu, le tabernacle, a été construit grâce aux offrandes du peuple. C'est avec les biens que chacun possédait que, finalement, ce lieu de culte a pu exister dans le désert. C'est pas Dieu qui a pourvu, en quelque sorte. C'est le peuple qui a pourvu pour ce que Dieu demandait comme lieu de culte. On retrouve le même principe dans la construction du temple, dans 1 Chronique 29, que je vais lire. Et c'est David, le premier, qui a contribué à ce que le temple puisse être construit. Alors, 1 Chronique 29, versets 1 à 9. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être en or, de l'argent, pour ce qui doit être en argent, du bronze, pour ce qui doit être en bronze, du fer, pour ce qui doit être en fer, et du bois, pour ce qui doit être en bois. » Ainsi que des pierres d'onyx, des pierres à enchâsser, des pierres brillantes de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en qualité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus que tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or d'Ophir, 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent, et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi, firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jehiel le Guershonite pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David lui aussi en éprouva une grande joie. C'est intéressant cette mobilisation, cette motivation qui est là pour la construction du temple. Et on voit que chacun apporte de bon cœur. David, il dit, dans mon attachement pour la maison de Dieu, sont des offrandes volontaires. Ça ne peut pas être forcé, hein. C'est quelque chose qui vient du cœur de chacun. On retrouve la même chose dans les actes au début de l'Église. On voit que les chrétiens avaient mis leurs biens en commun pour qu'il n'y ait pas de nécessiteux parmi eux. C'était aussi un acte de reconnaissance, cette offrande, cet esprit qui était là et qui faisait que chacun se démettait de ses propres biens pour les mettre à la disposition de tous. Alors ça nous permet de comprendre ce que la Bible appelle une offrande agréable à Dieu. C'est une offrande offerte par gratitude, volontaire, offerte sans réserve et de bon cœur. Et Paul rappelle cela dans 2 Corinthiens 9, verset 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et ça, c'est essentiel. L'esprit de l'offrande, il doit être vraiment marqué par la joie, le volontarisme, le désir d'apporter à Dieu un cadeau. Hein, c'est ce qui est écrit. Alors, c'est le texte du Lévitique, mais il y a bien d'autres textes qui nous parlent de l'offrande. Et il y a en particulier l'idée que l'offrande n'est pas seulement un acte ponctuel, mais c'est une pratique qui doit faire partie de la vie du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de textes qui parlent de cela. On va lire Exode 22, versets 28 à 29, où Dieu dit « Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils, tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour, tu me le donneras. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. » C'est ce qu'on appelait la dîme à l'époque. Donc la dîme, c'était un principe qui était établi, un peu comme un impôt, mais qui était là pour, quelque part, que le peuple puisse apporter à Dieu, remercier Dieu pour les récoltes qu'il recevait de la part de Dieu. Ce n'était pas une option, mais c'était un principe qui était établi. Je crois que, bien sûr, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est ici dans une théocratie, donc c'est Dieu qui dirige, et les prêtres de Dieu sont un peu comme les fonctionnaires. Hein. Ils sont à plein temps, ils n'ont pas de part, ils n'ont pas de terrain où ils peuvent eux-mêmes cultiver, exploiter, mais ils vivent des offrandes du reste du peuple de Dieu. Et il faut bien comprendre que les Lévites n'assurent pas simplement le culte, hein. Ils ont beaucoup d'autres responsabilités. Ils visitent les malades, ils les examinent, ils doivent juger quand il y a des querelles et des disputes parmi le peuple, ils veillent à l'application de la loi, ils secourent les pauvres, ils gèrent les villes de refuge dans lesquelles ceux qui ont commis un meurtre, mais pas volontairement, peuvent se réfugier. Ils veillent à ce que les poids et les mesures employés dans le commerce soient justes. Voilà. Ils sont à la fois médecins, juristes, fonctionnaires, ils s'occupent des impôts, voilà. Et on comprend donc que la dîme était nécessaire pour que les Lévites puissent exercer leurs fonctions. Malgré tout, au-delà du principe de la dîme, il y avait quand même cette idée de rendre à Dieu une part de ce qu'on avait reçu. Il le dit lorsqu'on a lu le passage tout à l'heure, « Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. » Le Seigneur voulait que le peuple de Dieu se rappelle que tout ce qu'il avait lui venait de lui. Et finalement, la dîme, c'est une façon de se commémorer, de se souvenir, comme il a dit, c'est un souvenir de ce que Dieu avait donné pour que le peuple vive. C'est un peu comme la scène pour nous. La scène, elle nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Eh bien, l'offrande, elle est là pour ancrer en nous l'habitude de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Alors, c'est quelque chose qui est aussi présent dans le Nouveau Testament, on le verra. L'apôtre Paul en parle un peu dans Philippiens 4, versets 14 à 16. Je vais développer ça davantage la semaine prochaine. On peut lire quand même ce passage. Philippiens 4, 14 à 16. Suis un peu ancien là, Philippiens. Où Paul remercie les Philippiens pour les offrandes qu'ils ont faites pour l'avance de l'Évangile. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire, à Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Paul avait apporté cet enseignement dans l'Église, que l'Église ayant reçu l'Évangile, elle était redevable aussi à ce que l'Évangile puisse continuer à se répandre. Et donc l'Église de Philippe avait pris cela à cœur, elle avait soutenu Paul dans son ministère pour qu'il puisse continuer à annoncer l'Évangile là où il n'avait pas été annoncé. Alors je crois que en tant qu'enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, eh bien, nous avons quelque part une redevabilité par rapport à la mission, puisque la mission, c'est le fait d'annoncer l'Évangile, et que nous avons reçu l'Évangile, nous devons aussi contribuer quelque part à ce que l'Évangile puisse continuer à être proclamé. Alors, je voudrais terminer avec deux passages du prophète Malachie. Alors on sait que ce qu'on a reçu de Dieu est gratuit. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de devoir envers Dieu. Il y a quelque chose de légitime quelque part dans notre relation avec Dieu, d'honorer Dieu par nos offrandes. Et c'est ce que dit ici Malachie qui parle au nom du Seigneur et qui reproche à Israël d'avoir perdu de vue cette idée de remercier Dieu, de lui rendre gloire et grâce par leurs offrandes. Malachie 1, versets 6 à 8, où Dieu pose la question: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le maître de l'univers? À vous, les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant: la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Alors, on n'avait pas cessé d'apporter des offrandes, mais c'était vraiment devenu une formalité. Et pour ne pas être en reste, on offrait à Dieu ce qui était malade, ce qui n'avait pas de valeur. Hein. Et Dieu dit: mais est-ce que c'est comme ça que vous m'honorez? Est-ce qu'un fils honore son père, un serviteur son maître? Mais vous, si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Ça blessait le cœur de Dieu de voir que les offrandes n'avaient pas de valeur. C'était simplement par conscience religieuse qu'on le faisait, mais il n'y avait plus cet esprit qui était là, d'amour, de reconnaissance. Dans Malachie 3, versets 8 à 10, Malachie revient avec la même question. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez, vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve de l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors on ne peut pas acheter la bénédiction de Dieu, c'est vrai. Mais on ne peut pas non plus se moquer de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire ici. Ne faites pas semblant. Apportez-moi de tout cœur vos offrandes et je déverserai la bénédiction sur vous. Alors je crois que c'est important qu'on prenne conscience aussi de ça, que le culte, il a comme composante l'offrande. On vient pour apporter quelque chose à Dieu. Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Proverbe 3, verset 9 encore. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Alors, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité, mais c'est quand même une promesse qui est là, que si j'honore Dieu, que si je considère que ce que j'ai, ce que je reçois de lui, n'est pas à moi d'abord, mais c'est une bénédiction qu'il me donne, eh bien si je lui rends grâce pour cela, si je lui témoigne de ma gratitude, eh bien Dieu continuera aussi à me bénir. Alors qu'on puisse, nous aussi, comprendre cela, nous rappeler qu'on vient au culte pour apporter quelque chose à Dieu. Et c'est important, Dieu veut être célébré, honoré comme il se doit. C'est lui qui nous a donné le premier, et il veut qu'on puisse répondre à son amour en donnant à notre tour. Voilà, on va prier.